Tous les ans, on fête la Sainte-Barbe le 4 décembre. Sainte-Barbe est pour tous la patronne des pompiers, mais dans certaines régions, elle veut dire aussi autre chose. Une femme, une fête. Barbe est une jeune fille qui a vécu au IIIe siècle et qui est entrée dans les légendes populaires. Son père, Dioscore, très jaloux de sa fille, décide de l'enfermer dans une tour pour la garder pour lui tout seul. Mais un jour, pendant son absence, Barbe se convertit à la religion chrétienne. Quand son père revient, il est furieux. Il lui fait couper la tête, mais il meurt à son tour foudroyé pendant un orage. Voilà pourquoi Sainte Barbe est la sainte patronne de ceux qui travaillent avec le feu, des jeunes filles et des prisonniers. À chaque région, sa tradition. En Provence, on prend trois larges assiettes creuses où l'on met de la terre et où l'on plante des graines de blé. Le soir du réveillon de Noël, pendant le gros souper provençal, on décore la table avec ses assiettes de blé. À la Sainte-Barbe, dans les boulangeries, on peut acheter des sachets de blé au profit des personnes pauvres. Les Provençaux disent « Quand l'oublat vem ben, tout vem ben ». Si le blé germe à Noël, la moisson va être bonne. En Alsace, les jeunes filles mettent des branches de pommiers ou de cerisiers dans un vase. Si les branches fleurissent pour Noël, cela veut dire qu'elles vont trouver l'amour et qu'elles vont bientôt se marier. Mais cela signifie aussi que l'année sera abondante. Dans le nord de la France, dans les mines, on dit que Sainte-Barbe est la patronne de tout ce qui tonne et détonne. Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs depuis le Moyen Âge. Cette sainte les protège des catastrophes dans les mines. Avant, les mineurs mettaient leurs plus beaux habits pour aller écouter le discours du directeur de la mine et recevoir leurs étrennes et une médaille. Aujourd'hui, on organise un grand repas et un bal populaire. En Savoie, à Bozelle, on ouvre exceptionnellement la chapelle Sainte-Barbe. Puis il y a une dégustation d'une traditionnelle soupe aux haricots et au lard que l'on prépare dans la nuit dans un immense chaudron. Les habitants partagent cette soupe tous ensemble. Tous les ans, on fête la Sainte-Barbe le 4 décembre. Sainte-Barbe est pour tous la patronne des pompiers, mais dans certaines régions, elle veut dire aussi autre chose. Une femme, une fête. Barbe est une jeune fille qui a vécu au IIIe siècle et qui est entrée dans les légendes populaires. Son père, Dioscore, très jaloux de sa fille, décide de l'enfermer dans une tour pour la garder pour lui tout seul. Mais un jour, pendant son absence, Barbe se convertit à la religion chrétienne. Quand son père revient, il est furieux. Il lui fait couper la tête, mais il meurt à son tour foudroyé pendant un orage. Voilà pourquoi Sainte Barbe est la sainte patronne de ceux qui travaillent avec le feu, des jeunes filles et des prisonniers. À chaque région, sa tradition. En Provence, on prend trois larges assiettes creuses où l'on met de la terre et où l'on plante des graines de blé. Le soir du réveillon de Noël, pendant le gros souper provençal, on décore la table avec ses assiettes de blé. À la Sainte-Barbe, dans les boulangeries, on peut acheter des sachets de blé au profit des personnes pauvres. Les Provençaux disent « Quand l'oublat vem ben, tout vem ben ». Si le blé germe à Noël, la moisson va être bonne. En Alsace, les jeunes filles mettent des branches de pommiers ou de cerisiers dans un vase. Si les branches fleurissent pour Noël, cela veut dire qu'elles vont trouver l'amour et qu'elles vont bientôt se marier. Mais cela signifie aussi que l'année sera abondante. Dans le nord de la France, dans les mines, on dit que Sainte-Barbe est la patronne de tout ce qui tonne et détonne. Sainte Barbe, c'est la fête des mineurs depuis le Moyen Âge. Cette sainte les protège des catastrophes dans les mines. Avant, les mineurs mettaient leurs plus beaux habits pour aller écouter le discours du directeur de la mine et recevoir leurs étrennes et une médaille. Aujourd'hui, on organise un grand repas et un bal populaire. En Savoie, à Bozelles, on ouvre exceptionnellement la chapelle Sainte-Barbe. Puis il y a une dégustation d'une traditionnelle soupe aux haricots et au lard que l'on prépare dans la nuit dans un immense chaudron. Les habitants partagent cette soupe tous ensemble.
Paris en 1895 est non seulement la ville lumière qui se jetait dans les bras de la fée électricité, elle est aussi, d'une certaine manière, la capitale culturelle du monde occidental. Cette métropole fourmillante où se pressent les écrivains, les peintres, les penseurs, les musiciens du monde entier, sur fond d'amusements multiples, d'inventivité folle, on est en train d'inventer à Paris l'avion, l'automobile et le cinématographe. Paris, en 1895, est la ville de tous les étonnements. Nous sommes entre Noël et le 1er janvier, exactement le 28 décembre 1895, sur les grands boulevards couverts de givre, avec des caniveaux pleins de glace. Il fait extrêmement froid en cet hiver 95-96. Le quartier de l'Opéra, en ce début de soirée glaciale, est déserté par les passants qui ont tendance à relever le col de leur manteau. Il y a quand même quelques omnibus, quelques voitures de remise qui circulent encore à la lueur des becs de gaz. Alors, si vous voulez bien, on va entrer se réchauffer au grand café des Capucines et on va tout de suite descendre le petit escalier qui mène au sous-sol. Et là, dans une sorte de vestibule, un calico annonce « Cinématographe Lumière, entrée 1 franc ». Et pour la circonstance, on s'est offert les services d'une sorte de butler. « Entrez, mesdames et messieurs, venez voir l'extraordinaire invention des frères Lumière de Lyon. Première représentation des merveilleuses projections, la photographie animée, un spectacle prodigieux. » Alors, ben, on va entrer, si vous voulez bien, pour la modique somme d'un franc. Enfin, c'est pas si modique que ça à l'époque, d'ailleurs. Vous avez au mur, alors on est dans un salon oriental, décoré de toutes sortes de tentures, un peu à l'hindou, et puis au fond une toile blanche, en face de la toile blanche un grand appareil qui est tout horizontal, hein, ça n'est pas encore la projection verticale qu'on connaîtra bientôt, et d'un seul coup, sur le rectangle blanc là-bas au mur, apparaissent en noir et blanc des personnages qui se mettent à bouger, qui se déplacent, qui ont l'air de vivre. Il ne leur manque que la parole. Alors bien sûr que l'image est un petit peu trépidante, bien sûr que les gestes sont encore saccadés, mais on voit des ouvriers qui sortent d'une usine. Et puis bientôt, et ça fait frémir tout le monde qui se lève en criant, et puis bientôt un train qui entre en gare et qui a l'air de, comme ça, de foncer sur le maigre public, et puis une barque qui glisse sur la mer, et puis un bébé qui mange sa bouillie sous le regard attendri de ses parents. Ça dure 20 minutes, cette projection, et à la sortie, tout le monde est là, un peu éberlué de ce qu'il a vu, on y croit à peine, on est amusé. Peut-être quand même qu'on n'a pas véritablement conscience d'avoir assisté à un moment historique. Et pourtant, je cite Jacques Janssen, le cinéma était né. Et la merveilleuse invention ne devait pas tarder à prendre dans la vie moderne une place de plus en plus grande, comme spectacle d'abord, comme art ensuite, comme instrument scientifique et comme moyen pédagogique enfin. Un pas immense venait d'être franchi depuis la bonne vieille lanterne magique qui faisait l'amusement des enfants. On le devait à deux Français, les frères Lumière et plus particulièrement au cadet Louis. Paris en 1895 est non seulement la ville lumière qui se jetait dans les bras de la fée électricité, elle est aussi d'une certaine manière la capitale culturelle du monde occidental. Cette métropole fourmillante où se pressent les écrivains, les peintres, les penseurs, les musiciens du monde entier sur fond d'amusements multiples, d'inventivité folle. On est en train d'inventer à Paris l'avion, l'automobile et le cinématographe. Paris, en 1895, est la ville de tous les étonnements. Nous sommes entre Noël et le 1er janvier, exactement le 28 décembre 1895, sur les grands boulevards couverts de givre, avec des caniveaux pleins de glace. Il fait extrêmement froid en cet hiver 95-96. Le quartier de l'Opéra, en ce début de soirée glaciale, est déserté par les passants qui ont tendance à relever le col de leur manteau. Il y a quand même quelques omnibus, quelques voitures de remise qui circulent encore à la lueur des becs de gaz. Alors, si vous voulez bien, on va entrer se réchauffer au grand café des Capucines et on va tout de suite descendre le petit escalier qui mène au sous-sol. Et là, dans une sorte de vestibule, un calicot annonce « Cinématographe Lumière, entrée 1 franc ». Et pour la circonstance, on s'est offert les services d'une sorte de butler. « Entrez, mesdames et messieurs, venez voir l'extraordinaire invention des frères Lumière de Lyon. Première représentation des merveilleuses projections, la photographie animée, un spectacle prodigieux. » Alors, ben, on va entrer, si vous voulez bien, pour la modique somme d'un franc. Enfin, c'est pas si modique que ça à l'époque, d'ailleurs. Vous avez au mur, alors on est dans un salon oriental, décoré de toutes sortes de tentures, un peu à l'hindou, et puis au fond une toile blanche, en face de la toile blanche un grand appareil qui est tout horizontal, hein, ça n'est pas encore la projection verticale qu'on connaîtra bientôt, et d'un seul coup, sur le rectangle blanc là-bas au mur, apparaissent en noir et blanc des personnages qui se mettent à bouger, qui se déplacent, qui ont l'air de vivre. Il ne leur manque que la parole. Alors bien sûr que l'image est un petit peu trépidante, bien sûr que les gestes sont encore saccadés, mais on voit des ouvriers qui sortent d'une usine. Et puis bientôt, et ça fait frémir tout le monde qui se lève en criant, et puis bientôt un train qui entre en gare et qui a l'air de, comme ça, de foncer sur le maigre public, et puis une barque qui glisse sur la mer, et puis un bébé qui mange sa bouillie sous le regard attendri de ses parents. Ça dure 20 minutes cette projection et à la sortie, tout le monde est là, un peu éberlué de ce qu'il a vu, on y croit à peine, on est amusé. Peut-être quand même qu'on n'a pas véritablement conscience d'avoir assisté à un moment historique. Et pourtant, je cite Jacques Janssen, le cinéma était né. Et la merveilleuse invention ne devait pas tarder à prendre dans la vie moderne une place de plus en plus grande, comme spectacle d'abord, comme art ensuite, comme instrument scientifique et comme moyen pédagogique enfin. Un pas immense venait d'être franchi depuis la bonne vieille lanterne magique qui faisait l'amusement des enfants. On le devait à deux Français, les frères Lumière, et plus particulièrement au cadet Louis.